Le 14 octobre dernier, Cité Nature à Arras a proposé au public une journée à caractère scientifique dans le cadre de la Fête de la Science. Des acteurs de plusieurs associations scientifiques sont venus présenter leurs activités, ainsi que des enseignants, chercheurs, médiateurs et entrepreneurs au service de la science. Avant de se plonger au cœur de cette journée, on écoute Sylvie Lacueste, directrice du centre scientifique et chargée de communication de Cité Nature, nous présenter cet événement. Cité Nature, fête la science. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu comment ça s'est mis en place et le concept ?
Eh bien, la fête de la science est un événement national qui dure une semaine, sur lequel on participe depuis maintenant 4 ans. C'est la deuxième année où on décide d'organiser un village des sciences, qu'on a appelé cette année le Festival des sciences, avec différents partenaires. Pour l'idée étant de montrer que les sciences ne sont pas que des mathématiques ou de la biologie, on a un petit peu partout. Donc on a des partenaires qui vous parlent d'architecture, qui vous parlent d'histoire, on a bien sûr le numérique, la réalité virtuelle, etc. L'idée étant d'avoir des partenaires du territoire, proches d'Arras, et de pouvoir montrer aux gens que la science est très très importante. Il faut savoir que en Haute-France, les filières scientifiques sont souvent boudées par les étudiants, donc on essaye de leur montrer que les sciences, il y en a partout, et au quotidien, ça peut nous permettre de trouver aussi du travail.
La particularité de cette journée aussi, c'est de un peu banaliser, vulgariser aussi la science, parce que c'est pas seulement pour les initiés, mais c'est aussi tout public.
Complètement, c'est vraiment l'idée de cette fête de la science, c'est la vulgarisation. Le mot science fait peur, il ne faut pas se le cacher. L'idée étant de l'adapter à tous les niveaux, aux enfants, aux initiés, à tout le monde. Donc aujourd'hui on peut découvrir l'astronomie mais avec un vocabulaire adapté aux enfants. On peut découvrir la réalité virtuelle aussi avec le CESI, c'est des jeunes étudiants qui viennent montrer leur travail, ce qu'ils font à l'école et expliquer aux plus jeunes comment ça marche.
Et il y a aussi la police scientifique qui est présente.
Eh oui, la police scientifique est un grand, grand succès. J'ai pensé à eux l'année dernière en regardant tout simplement les séries à la télé. On se dit, voilà, les experts, tout ça. Est-ce que finalement, ils nous embobinent pas dans leurs films ? Est-ce que c'est dans la réalité, c'est comme ça ? La police scientifique d'Arras a tout de suite répondu positivement à mon offre. Ils sont là et ils expliquent aux gens que des fois, c'est pas si simple. Quand on voit des empreintes avec une réponse très rapide, etc., des prises d'ADN extrêmement rapides, c'est pas toujours aussi simple, il y a des fois des complications. Et puis là, j'ai vu, ils ont fait un petit parcours, un jeu pour les gamins. Il faut vraiment aller chercher l'indice. Ils ont préparé le truc vraiment très très bien.
On se plonge à présent au cœur de cette fête de la science auprès de différents acteurs de cette journée. Lors de ce reportage, vous pourrez également entendre quelques réactions du public qui ont vécu quelques expériences, étranges ou pas.
Florent Delefly, groupe scientifique d'Arras, et j'en suis le président.
Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur cette fête des sciences ?
Comme l'année dernière, nous présentons un stand qui décrit les activités de l'association, en particulier celles liées aux activités électroniques, à l'astronomie. Et cette année, nous déclinons le thème de la fête de la science, qui est l'erreur, sur les météorites. Les météorites, ce sont des pierres qui tombent du ciel et il est très facile de les confondre avec de simples cailloux terrestres. Donc c'est une porte d'entrée à expliquer le lien qu'il y a entre la Terre et le ciel et puis le début d'un émerveillement à découvrir tous les secrets de l'univers.
Alors comment on fait justement pour distinguer et voir les erreurs qui peuvent être commises ? Comment ça marche ?
Alors on va commencer par observer la pierre, quelle est sa couleur, quelle est sa forme, quelles sont ses dimensions. Et puis si on a des instruments un peu plus sophistiqués, on va pouvoir mesurer son poids, sa densité, de quel type de roche elle est composée. Mais ça, c'est toute une histoire qui est longue à expliquer et on vous invite à venir nous rendre visite pour qu'on vous explique tout ça en détail, voire à apporter vos propres pierres pour qu'on les observe ensemble.
Ah, parce qu'il y a des gens qui peuvent amener leurs pierres, il y a des météorites qui ont été trouvées dans la région ?
Ah, mais il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se trouve dans la nature, donc au cours de randonnées, certaines personnes ramassent des pierres, croient avoir trouvé des météorites. Dans certains cas, ça peut effectivement en être. Dans beaucoup d'autres cas, malheureusement, ça n'en est pas. Mais l'idée, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce qui fait qu'une pierre peut être une météorite ou peut ne pas en être une.
Valentin Lemort, je suis au groupe scientifique d'Arras et je fais de l'électronique avec les jeunes le samedi après-midi. Et donc l'idée c'est de montrer des petits montages, de leur faire faire des petites alarmes, des petits clignotants, tout ça, pour leur montrer comment ça fonctionne. Et donc là, on leur montre quelques alarmes, ça fait pas mal de bruit, mais bon. Et l'idée c'est qu'ils aiment bien. Voilà, il faut qu'ils prennent du plaisir à faire quelque chose qui en même temps les instruise.
Mais est-ce que vous avez des questions, parce que c'est un jeune public là, est-ce que vous avez des questions un peu plus... qu'est-ce que c'est que ces fils bleus, qu'est-ce que c'est que ces fils rouges, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Alors, on y va pas à pas, parce que bon, au début on fait, un montage qui permet, enfin, par exemple une petite alarme, qui permet de les accrocher, disons, à l'électronique. Puis ensuite, on passe à des choses un peu plus évoluées, et à chaque fois, on amène un petit peu de connaissances, un petit peu à la fois. On ne fait pas tout d'un coup, sinon ils n'arriveraient pas à assimiler l'intégralité.
Et du coup, c'est des alarmes fictives ou elles existent vraiment dans des lieux publics?
Non, elles n'existent pas dans des lieux publics. Par contre, elles sont faites par des élèves qui ont entre 10-12 ans comme premier montage. Et ça, donc ça leur permet donc de découvrir comment fonctionne une LED, comment fonctionne un transistor, comment fonctionne un condensateur, une résistance. Et donc c'est un but pédagogique avant tout. Et puis ça marche plutôt bien puisque ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça.
Comment c'est un petit point, et ensuite, quand il tombe à zéro, eh bien ça va fonctionner l'alarme.
De côté là, et ça fait tourner le ventilateur. Donc, tu vois, rien qu'en cachant la lumière, ça le fait tourner. Ouais. Parce qu'en fait, le courant, quand il y a de la lumière, le courant il passe à travers ce composant qui est ici. Et quand tu caches la lumière, il passe plus ici, il est obligé de passer par ici. Et ce qui fait fonctionner tout ce petit morceau de circuit qui a fait fonctionner le moteur. Et là, je cache bien la lumière. Ouais, elle passe sous tes doigts la lumière. Regarde. Bien caché. Ah, ou alors il y a un fil qui s'est débranché. C'est pas grave, ça arrive. Voilà.
Vas-y. Non, c'est là qu'on tout cache.
Je cache. Ça.
Et des choses plus, comment dire, plus conséquentes, comme ceci. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle une échelle de Jacob. Et donc, c'est un arc électrique qui monte jusqu'en haut. Et donc, en fait, quand l'arc électrique traverse l'air, il chauffe l'air. Et quand l'air chaud, comme l'air chaud monte, elle monte, l'arc électrique il monte avec la chaleur, avec l'air chaud. Et arrivé en haut, cet air chaud, bah, il est trop espacé entre les deux bornes. Et du coup, l'arc est obligé de lâcher. Et du coup, il reprend en bas. C'est pour ça que l'arc, oups, il fait que... partir d'en bas, il monte, il recommence en bas, il remonte. Souvent, on voit ceci dans les vieux films de science-fiction.
Ouais.
Comme Frankenstein ou d'autres choses comme ça. Ils montrent des expériences électriques de ce genre. Et de temps en temps, c'est amusant d'en refaire quelques-unes et d'expliquer pourquoi ça marche ainsi.
Fait partie de l'association AFP2I située à Arras, pas loin du centre commercial Auchan. Maxime.
Alors là, il y a un monsieur qui fait des trucs bizarres avec quelque chose sur les yeux, réalité virtuelle. J'imagine, tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe?
Oui, bien sûr. Alors là, il est dans un escape game en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il doit trouver le moyen de s'échapper du jeu. Donc le but de ce casque virtuel, c'est de prendre des objets via le regard. On a un petit point au niveau du casque virtuel qui nous permet de prendre les objets. Et une fois qu'on a ces objets, on trouve des clés, voilà, des alimentations pour allumer la lumière, tout ça. Et le but est de sortir le plus vite possible avant de se noyer.
Ça déstabilise pas un petit peu?
Alors si, parfois on peut perdre le sens de l'orientation, on peut avoir quelques vertiges, des fois t'es nausée aussi, ça arrive parfois que les personnes se sentent pas très bien et sont obligées d'arrêter le casque avant que ça se termine mal. Donc on a un peu de tout, après ça dépend des personnes.
Et du coup, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, parce que oui, dans les jeux vidéo, maintenant, on voit ça, mais pour quelqu'un de lambda, comment on peut se procurer un tel matériel?
Alors là, on est sur un matériel donc, pour smartphone, donc ça coûte pas très cher, hein, c'est une trentaine d'euros pour le casque virtuel. Après, les portables très récents permettent de l'utiliser. Après, bon, on a aussi le casque virtuel HTC Vive, là on est un peu plus sur le casque réalité virtuelle, mais vraiment de la réalité virtuelle. Et là, on utilise justement ce petit casque virtuel pour montrer aux gens qu'on peut aussi avoir chez soi un petit casque pour pas très cher et s'amuser tout autant.
D'accord, donc du coup quand on est chez soi, il vaut mieux pousser tous les meubles si on veut faire des choses.
Vaut mieux parce que forcément on voit pas ce qui se passe à côté, donc vaut mieux bouger un peu les meubles, avoir un peu d'espace, qu'on a tendance à bouger même si dans le jeu on bouge pas vraiment, puisqu'il y a pas de, forcément on peut pas se déplacer dans un jeu, on peut juste bouger la tête, etc, prendre des objets, mais on pourra pas se déplacer, donc il faut faire assez attention quand même, attention au mur et attention aux portes également.
Il y a d'autres choses que vous présentez?
Alors oui, on présente l'impression 3D, donc on montre à partir de ces ateliers ce qu'on peut faire en termes d'initiation. Donc on fait des ateliers le mardi matin sur la modélisation d'impression 3D, la conception. On fait également l'initiation aux tablettes tactiles via des jeux de logique. On fait de la robotique avec le Cosmo, une intelligence artificielle qui peut interagir avec les personnes. Et on fait également l'initiation de drone. Donc on propose de faire le drone dans le jardin de Cité Nature.
Alors vous venez de vivre une expérience un peu un étrange là.
Oui, je viens de tester le casque virtuel.
Alors c'est la première fois?
C'est la troisième fois.
Ah d'accord, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous aviez à faire?
Ça ressemble à un jeu de rôle, une escape room dans lequel on avait des indices à trouver pour pouvoir s'échapper.
Et du coup, on vous voyait un peu tourner dans tous les sens, vous êtes complètement isolé, l'extérieur n'interagit pas du tout dans ce que vous faites?
Oui, absolument. Heureusement, j'avais quelqu'un pour me guider un petit peu, mais sinon les énigmes étaient délicates à réaliser en moins de 2 minutes.
Tu peux me raconter un peu ce qui vient de t'arriver là?
Je marchais dans le vide, donc c'était un peu bizarre.
Alors t'avais quoi sur le... parce que t'avais quelque chose sur les yeux apparemment.
Oui.
Alors c'était quoi? Tu peux m'expliquer en gros?
Un casque de réalité virtuelle.
Alors tu devais faire quoi?
Je devais me téléporter avec une manette et je pouvais marcher, mais je devais pas dépasser la case bleue.
Et c'est la première fois que tu fais ça?
Oui.
Alors ça fait comment?
Bah ça fait bizarre.
Ouais, tu recommencerais volontiers?
Oui.
Tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe là?
Avec Cosmo. Alors Cosmo, c'est un petit robot qui peut se programmer, donc on le programme directement sur l'application.
Sur un téléphone, hein, parce que là...
Oui, là c'est sur mon téléphone, mais on peut également sur une tablette. Il suffit juste d'avoir l'application sur son téléphone.
Alors il est complètement autonome apparemment?
Oui, complètement autonome. Même si on s'occupe pas de lui, il va s'occuper tout seul et il va s'occuper avec ses cubes, il va chanter, il va danser. Il fait pas mal de petites choses.
Et toi, alors qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu peux me dire?
Cosmo, il a détruit tous les cubes.
Alors ça vous amuse? Vous en voulez un chez vous?
Ouais.
Et vous avez vu d'autres choses là?
Oui, bah on a été à la chimie avec l'illusion d'optique, c'était pas mal.
Qu'est-ce que tu devais faire alors?
Bah en fait, ils nous ont montré l'illusion d'optique et que parfois bah, la couleur elle peut tromper. Par exemple, il y avait comme un jus de pêche, mais en fait non, c'était à la fraise.
D'accord.
C'est la couleur, bah, elle peut tout changer en fait.
D'accord. Et la police scientifique, t'as été la voir?
Non, pas encore.
Pas encore? Vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe?
Donc là, en fait, on a juste laissé son empreinte de doigt sur la feuille. Et puis avec la poudre magnétique, eh bien, on vient frotter puis on fait apparaître l'empreinte.
Et vous êtes un initié de ce genre de choses ou c'est la première fois que vous découvrez un petit peu comment ça se passe?
Pas du tout, je suis juste initié pour regarder les films à la télé. Mais là, maintenant, je mets en pratique pour passer à la prochaine étape.
Okay. Et toi, tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire?
Je suis en train de rechercher pour l'enquête scientifique, là.
Alors c'est quoi l'enquête? Tu peux me raconter un peu?
Bah, y a eu un crime, y a une personne qui a été tuée, et il y a la dame de ménage qui est venue nettoyer, elle a retrouvé le corps qui était allongé par terre.
Alors, je vois qu'il y a des grilles de mots fléchés ou de mots croisés, là, ça correspond à quoi ?
C'est pour trouver qui c'est qui a tué la personne, ça donne le nom ici.
D'accord.
En cherchant avec la grille, avec les définitions. Il faut retrouver les mots avec toutes les affiches. Et après, ça donne le nom du coupable.
Qui est l'assassin ?
Je crois que c'est la dame de ménage, là. Dominique.
T'as vu d'autres choses ? Sur la fête de la science, est-ce que t'as été voir d'autres choses ?
On a été voir le robot.
Ouais. Comment t'as trouvé ça ?
C'est marrant. On peut attraper les cubes et tout ça, c'est marrant.
Je m'appelle Stéphanie, je suis agent spécialisé de police technique scientifique et je gère le stand de la police scientifique. Donc j'ai organisé une petite scène de crime et un petit jeu pour découvrir qui est le coupable du meurtre de Laurent.
Alors ça n'a pas l'air simple hein, finalement quand on voit tout ça là.
Non, parce qu'il faut d'abord comparer des empreintes et des traces, savoir qui, entre les deux suspects, qui est le bon et après confirmer ça par différentes techniques qui sont affichées un petit peu partout. Il y a de l'odorologie, il y a les traces papillaires, les traces biologiques. Donc c'est sous la forme d'un petit mot fléché avec des questions et puis à la fin vous aurez le nom du coupable, qui n'est pas le coupable attendu.
Vous avez pas mal de questions aussi j'imagine qu'on vous pose.
Beaucoup de questions sur la filière scientifique, hein, comment on fait pour être dans la police scientifique, c'est la chose principale.
Parce que apparemment les jeunes, je discute un peu avec eux, ils regardent pas mal de séries, ça les passionne un peu, donc du coup pour eux c'est plus du virtuel maintenant s'ils pratiquent.
Aujourd'hui ouais, c'est de la réalité, hein. C'est mon propre matériel d'ailleurs, donc... Ils l'utilisent et puis ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça en fait, la police scientifique. Mais...
Et c'est quoi les principales difficultés justement pour arriver à trouver un coupable éventuellement quand on a, technologiquement parlant, pas mal de choses plutôt intéressantes et assez convaincantes quoi finalement.
Il faut pas se tromper, comme là le thème de la journée c'est l'erreur, donc j'ai mis un petit indice qui induit en erreur, une petite lettre signée Do, soi-disant Dorothée, la femme de ménage de Laurent, mais c'est pas Dorothée. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se fier aux apparences et puis faire parler les preuves.
Bon, c'est Hugues Delalain du CESI, où je suis enseignant-chercheur, et on présente la partie réalité augmentée et réalité virtuelle pour éviter les erreurs dans l'usine du futur. C'est un peu ça l'idée.
Ah ouais, c'est quand même assez compliqué finalement.
Bon, compliqué non, du moins c'est des technologies qu'on découvre effectivement, mais bon, qu'on essaie d'exploiter là sur des exemples très concrets et là sur la maintenance industrielle.
Alors du coup, un exemple concret justement pour éviter ces erreurs.
Alors l'exemple concret ici c'est avec la réalité augmentée. J'ai appris ma procédure de maintenance peut-être dans un environnement virtuel pour minimiser les risques d'erreur, de couper cette chaîne aussi peut-être pour minimiser le coût, on va dire, pour l'entreprise, du coup. Et là, j'arrive sur la partie vraiment concrète de ma chaîne de production, où je vais devoir faire mon opération de maintenance. Mais en tant qu'opérateur de maintenance, je peux avoir un moment, un doute sur la procédure. Et donc, on va avoir en réalité augmentée, en affichant en surimpression de notre chaîne de production, l'information des étapes à faire pour démonter la pièce. En audio, ça va être compliqué.
Oui, j'imagine. Mais alors du coup, les enfants par exemple, c'est un peu... comment vous faites pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent un peu comment ça marche, parce que ça ne doit pas être évident.
Le plus simple, là, c'est de montrer. Hein.
D'accord. Donc vous avez un écran, une tablette pour...
Une petite tablette. Mais ça va être... voilà. La petite tablette où je peux effectivement... Tiens, non, hop. Où je peux montrer effectivement les étapes qui sont présentées une par une. Hop, je vais revenir au début. Et puis effectivement, je montre effectivement que j'arrive sur la chaîne, que la pièce est détectée sur la tablette et ça s'affiche. Et j'ai le petit texte plus l'audio qui m'explique les différentes étapes de l'opération de maintenance.
Ouais. Tu peux m'expliquer ce que tu tiens dans la main ?
Une larve.
Ça te plaît le monde des insectes ?
Oui.
C'est quoi ton insecte préféré ?
La libellule, parce que j'aime bien quand elle vole.
Cette larve, elle va grandir, donc elle va fabriquer sa carapace, c'est son squelette. Et à un moment donné, la carapace change pas de taille. Donc elle la fabrique, elle a une taille. Donc elle va fabriquer un intérieur dans son corps, elle va fabriquer une nouvelle carapace, très souple, qui va pouvoir s'agrandir. Et puis une fois qu'elle est prête, elle va déchirer l'ancienne carapace. Et elle va se débarrasser, puis elle va se gonfler d'air et prendre sa nouvelle taille, plus grande. Alors on peut trouver, quand on a de la chance, on peut trouver l'ancienne carapace vide. Et c'est ça, ici, c'est une carapace vide.
C'est comme une paire
de chaussures, mais sans le pied dedans. Tu comprends? Une vieille paire, voilà.
Ah, on peut toucher.
Ah bah là, oui, mais bon, c'est fragile, hein, parce que c'est vide, ouais, c'est séché.
C'est séché peu.
Voilà. Donc, si tu regardes, ça, c'est très, très... Tu ne serres pas, hein.
Oh, maman, prends-en. Tu ne serres pas. Non.
Donc là, on ne saurait pas dire à quel âge...
Non, je... le critère... Ça, c'est une libellule. Hein. Ça n'a rien.
Monsieur, je peux aller voir aujourd'hui le futuroscope?
Mais c'est pour monter une exhibition.
Je suis donc guide nature et patrimoine volontaire au CPE d'Arras, ville d'Artois. Et puis donc dans le cadre de la journée de la science, là, on avait décidé de faire un thème insecte. Et là j'ai simplement amené de mon composteur des larves que j'ai retrouvées, qui sont des larves du cétoine doré, donc qui est un insecte coléoptère, de la famille du hanneton, de la coccinelle, dont l'adulte est un très bel insecte vert, doré, métallique, mais dans le compost, on le trouve sous sa forme de larve, qui est, vulgairement, on parle de vert blanc. Voilà. Mais ce vert blanc a toutes les caractéristiques, des caractéristiques bien nettes d'un insecte, c'est-à-dire les trois paires de pattes, des segments thoraciques, l'abdomen avec des orifices respiratoires. Voilà.
J'imagine que le public est intrigué par pas mal de monde vient vous voir, ils sont assez manipulés, ça craint rien pour eux?
Non, parce que de toute façon, le corps de la larve, c'est une carapace, donc c'est son squelette, donc c'est une certaine solidité. Bon, la couleur blanche s'explique par le fait que la larve soit souterraine, vive dans le sol, donc elle est dépigmentée. Mais ça permet aussi de voir, finalement, ça donne une transparence, de voir un peu de l'organisation intérieure. Donc, malheureusement, je vais récupérer deux insectes adultes qui se préparaient dans une petite coque à passer l'hiver. Et puis, se sont fait la belle, malgré la protection que j'avais mise pour qu'ils ne s'échappent pas. Donc, j'ai la petite coque, j'ai une image de l'insecte qui a... La larve la plus évoluée, la plus grosse, devrait se transformer par un stade nymphal en adulte. L'adulte apparaîtra au printemps et consommera plutôt les feuilles de rosier. C'est un insecte qui est inféodé au rosier sauvage ou cultivé.
D'accord. Ces cétoines dorées, on les voit pas partout, j'imagine. Est-ce qu'ils sont assez répandus dans la région?
Écoutez, moi je l'ai découvert en tamisant mon composteur. J'ai découvert les larves. Des larves, j'ai associé évidemment à l'adulte, que je n'ai jamais vu ailleurs que si sur un framboisier, je crois, à proximité, qui est la même famille que le rosier d'ailleurs.
Est-ce que c'est un signe de bonne santé du jardin de voir des cétoines?
Oui, parce que l'adulte est le résultat d'une évolution sur plusieurs années. Donc si l'environnement est satisfaisant, en particulier le compost, alors Saint-Laurent, il y a peut-être des sols, parce que le compost préféré où l'adulte va pondre ses œufs, c'est le compost de sol. D'accord. Donc milieu humide. Voilà. Et donc dans ce milieu, effectivement, s'il n'y a pas de phyto, de produits, de conditions défavorables de façon globale, bien la larve qui va se développer pendant plusieurs années par des mues va atteindre le stade adulte, enfin le stade terminal, où elle fera une nymphose, c'est-à-dire là du vert blanc, elle se transformera sans manger, en faisant rien, en étant une sorte de léthargie, en l'adulte avec des ailes telles qu'il apparaît. Donc ça se fait pendant une période automnale et hivernale, et au printemps on voit apparaître le magnifique insecte.
C'était un reportage autour de la fête de la science qui s'est déroulée à Cité Nature le 14 octobre dernier. Si vous désirez plus d'infos ou tout simplement connaître les prochains rendez-vous de Cité Nature, vous pouvez appeler le 03 21 21 59 59 ou cliquer sur le www.citenature.com.